carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Poète à ses débuts, le sculpteur Jean Harpe est né à Strasbourg et a étudié les arts en Allemagne. De son appartenance au mouvement Dada en 1915-1916, aux années 30, où il se lança dans la sculpture, il exerça une forte influence sur de nombreux artistes, parmi lesquels Tristan Zara, Marcel Duchamp, Picasso ou Mondrian. Anticonformiste et contre l'art traditionnel, il voulait créer de nouvelles apparences tout en prenant la nature pour modèle. Depuis les années 2000, 40 ans après sa mort, en 1966, on s'accorde à reconnaître dans son œuvre une fécondité peu commune. Reculé dans, il apparaît désormais comme l'un des principaux piliers du modernisme. Jean Harpe a mené durant toute sa vie une réflexion sur la recherche de la forme au point que certains historiens d'art ont parlé à propos de sa sculpture d'une invention pure de la forme. Sur les terres nourricières du rêve, Jean Harpe a travaillé l'espace à la recherche de formes originales, de volumes en conversation, laissant derrière lui une œuvre poétique, sculptée, gravée, dessinée. Son œuvre est dispersée dans les musées du monde entier et dans trois fondations. L'une est à Locarno, la seconde en Allemagne et la troisième en France à Clamart, où Jean Harpe avait acheté un terrain en bordure de la forêt de Meudon, sur lequel il avait fait construire une maison conçue par sa femme, l'architecte Sophie Tauber, morte tragiquement en 1943, en voulant le rejoindre à Zurich, où Harpe s'était réfugié, après l'invasion de la France libre. Jean Harpe et Sophie Tauber en arrivaient même à réaliser des œuvres en duo où toute intervention du hasard était bannie. Mais dans tous les aspects de son œuvre, Harpe chercha les règles du hasard de manière implicite. Tous les deux ont défendu l'abstraction. Le couple, avec Theo van Doesburg, transforma la brasserie de Lobette à Strasbourg en véritable complexe de loisirs. Certaines parties de la brasserie sont aujourd'hui classées monuments historiques. Cette métamorphose architecturale de 1926 à 1928 fut saluée comme un exemple vraiment manifeste du courant artistique de Stil, issu du néoplasticisme qui a influencé l'architecture du XXe siècle, en particulier le Bauhaus et le style international. Les artistes de ce mouvement envisageaient tous un environnement utopique par le biais de l'art abstrait. Art et architecture s'étaient liés profondément dans cette expérience. Après la Seconde Guerre mondiale, le groupe Espace, fondé en 1951 par André Bloch et Del Marle, entendait réaliser la symbiose entre art et architecture, défendant un art non figuratif, une sorte de nouveau rêve spatial. Dans cette émission, enregistrée dans la maison du couple Harpe-Tauber, à Clamart, l'actuelle fondation Harpe en France, vous entendrez l'architecte Claude Parent, membre de l'Académie des Beaux-Arts, fondateur de l'architecture oblique, parler de la nécessaire fusion des arts et de l'architecture. Il évoque pour nous le groupe Espace auquel il a appartenu. Vous entendrez également Claude Veil-Séjot de la fondation Harpe. Retrouvons Claude Parent à la fondation Harpe à Clamart. Claude Parent, est-ce que vous pourriez nous présenter le groupe Espace auquel vous avez appartenu, nous présenter ce que c'est que ce groupe d'artistes auquel vous avez consacré à peu près 10 ans de votre vie, mais 10 années qui ont été une véritable matrice pour votre formation architecturale. Et aujourd'hui, si on peut, dans cet entretien, aborder justement la relation entre les arts et l'architecture, mais de façon là personnelle, à travers votre propre parcours et les artistes que vous avez rencontrés et ceux que vous avez fait rencontrer. Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce groupe Espace? Son nom, comment il a été formé, comment vous le présenteriez?
Avant tout, c'est un groupe d'artistes. Et ils se sont réunis à la demande d'un artiste connu, qui était M. Del Marle, et qui était un des derniers néoplasticiens au travail et en vie en France. Il avait rencontré André Bloch, qui lui dirigeait l'architecture d'aujourd'hui, en même temps qu'une autre revue plus petite, plus confidentielle, alors que l'autre était la revue internationale pour l'architecture, et la revue d'art qui s'appelait Art d'aujourd'hui, avec Guéguen, Pierre Guéguen notamment, comme commissaire, et Léon Degand. Ces gens-là ont pensé qu'il était intéressant, à ce moment du pays, qui était un peu vide du sens de la modernité.
On est en 1950, 51.
On est en 1950. Puisque au fond, moi je me suis intéressé donc dès 52 à ce groupe, et Bloch est mort en 66, et le groupe ne lui a pas survécu.
En 70, ouais. C'était fini.
70, c'était fini.
Ouais. D'accord.
Donc, c'était une idée qui reprenait d'ailleurs des idées antérieures, comme nous le verrons, et où les artistes disaient s'intéresser à l'architecture, trouvaient que l'architecture n'était pas assez expressive, et souhaitaient mettre leur talent à contribution en aidant les architectes et en travaillant donc en collaboration. C'était intéressant parce que, en ce temps-là, on aimait bien démontrer avec des mots. Donc, il se disait plus artiste, il se disait plasticien. Et tout ça, ça venait historiquement, on pourra le rappeler tout à l'heure, à un moment plus opportun, du travail du néoplasticisme, de Theo van Doesburg et de ses amis. Donc, nous, jeunes architectes, moi j'étais associé à un jeune architecte qui s'appelait Jodenschein. On avait monté un petit bureau, sans foi ni loi, parce qu'on n'avait pas le droit, enfin, d'être architecte et étudiant. On avait commencé et tout de suite, on s'est intéressé à ce qui se passait autour de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, et en disant qu'il ne faisait pas beaucoup pour les jeunes architectes, pour les attirer à eux, pour leur donner des possibilités d'intervenir. Et Bloch m'a téléphoné un jour, m'a dit, mais justement, j'ai reçu votre lettre, et justement, nous créons un groupe, et dans ce groupe, il y aura place pour les jeunes, puisqu'on l'appellera le groupe des jeunes du groupe Espace. Voilà, voilà là, comme je suis rentré. Bon, je suis rentré dans quoi ? Dans une famille d'artistes, et une famille large. Elle était à la fois resserrée sur son but, c'est-à-dire cette collaboration étroite dès l'étude entre architectes et artistes, pour que l'art s'immisce de façon plus organique dans la recherche du projet. Voilà. Pour qu'on abandonne définitivement certaines vieilles modernes de l'architecture néoclassique qui existaient encore dans le système de l'École des Beaux-Arts. Donc c'était un groupe armé en quelque sorte. Et le but était bien défini, c'était très clair. Il y avait ce qui était bien, c'est qu'il était très ouvert, comme je viens de le dire. Il était ouvert à des artistes qui n'étaient pas forcément d'une école particulière. Par exemple, il y avait Sonia Delaunay et il y avait Léger, Bernard Léger. Puis, il y avait les jeunes abstraits qui étaient en masse. Par contre, il y avait des artistes beaucoup plus consacrés et qui, eux, avaient fait déjà le défrichage nécessaire, avaient pris le risque de se libérer du naturalisme, hein, complètement, comme Arpe, par exemple, qui était un maître à penser là-dedans, et qui, sous des formes légèrement différentes, suivant une action antérieure de leur réflexion, comme le groupe Dada ou le surréalisme, etc., venaient cohabiter, et c'est ce qui a fait la richesse du groupe et l'intérêt du groupe. C'était pas seulement la défense de l'art abstrait. À la base, il y avait ça, parce que ça s'intéressait à l'architecture. Donc, l'abstraction géométrique de ces messieurs, et puis l'architecture, ça allait tout seul. Mais les autres étaient au même titre, je vous dis, Pechner, Gabeau, des gens comme ça, ou Harpe en gros, parce que, surtout Harpe, parce qu'il était un des membres qui avait le plus de notoriété à ce moment-là, etc. Tous ces gens-là étaient dans cette aura.
Qu'est-ce qui les réunissait ?
L'action.
D'accord.
En équipe, en membres associés.
Concrètement, ça se passait comment ?
Par des séances d'études. D'abord par des séances théoriques. Il ne faut pas oublier que la théorie, pour abattre l'académisme, il fallait une théorie, parce que l'académisme avait un langage. Elle avait une pratique, elle avait des audiences, c'était un système qui était dans la France et à l'étranger qui était très important et très armé. Donc il fallait une armée, il fallait des artistes de combat.
Et vous aviez des débats ?
Ah bien sûr, oui, on avait de grandes réunions dans lesquelles on débattait, on avait des projections pour montrer ce que chacun faisait dans son coin et le montrer aux autres, en discuter. C'était vraiment une espèce de, d'échange permanent. Et quand on a été un peu plus connu, avec quelques sous, on essayait de faire des expositions. Des expositions qu'on appelait, suivant les cas, expositions d'art abstrait ou expositions de l'art moderne, etc., etc. Et ces expositions nous permettaient, ce qui était très difficile pour nous, d'accéder à la connaissance d'un public, parce que les revues, il faut le dire, à part la revue du Bloc, elles étaient bloquées, si je puis dire, elles étaient bloquées sur l'académisme quand même. Et les journaux s'intéressaient pas du tout à ce qui pouvait nous arriver dans la modernité, les revues non plus. Donc nous, on était organisés. Oui, on était des êtres pacifiques, mais enfin, on s'organisait en groupe. Et on agissait en groupe, on exposait en groupe, quelle que soit la variation des travaux des membres.
Mais alors, vous décidiez d'un thème pour ces expositions, comment ça se passait ? Parce que c'était des échanges informels, il n'y avait pas réunion tous les mardis après-midi, enfin, je ne sais pas.
Ah non, non, mais d'abord, on avait une ou deux galeries qui nous soutenaient.
Oui.
La galerie Denise René. Mmh. Donc, rien qu'à la galerie Denise René, il y avait des expositions qui manifestaient nos travaux. Mais l'essentiel du truc, c'était de montrer ce qu'on savait faire, de se démontrer entre nous ce qu'on avait fait. Donc, dès qu'on avait soit étudié une architecture avec un ou deux sculpteurs, moi, je travaillais beaucoup avec Schoeffer.
Oui. Nicolas Schoeffer.
À ce moment, Nicolas Schoeffer, on montrait à Bloch qui publiait nos études.
Dans la revue.
Et on montrait en allant dans le salon qui nous accueillait, le salon des réalités nouvelles, par exemple. Ou alors on faisait nos petites expositions, groupe espace, de briques et de broc, quand on était invité dans un musée à Rouen. En général, il y avait un mec qui faisait ça, c'était moi. Qui montait tout, et c'est là que me vient toujours la fameuse anecdote sur Harpe, parce qu'il y avait une sculpture, je me souviens qu'elle était dorée, en métal, donc lourde, assez haute, plus d'1,50 m, et que cette sculpture, elle arrivait bien protégée dans une grande caisse de planches, mais il fallait la trimballer, il fallait la mettre en place, c'était pas facile parce que c'était délicat et que c'était très lourd. Donc j'ai toujours eu du mal à trouver des manœuvres pour pas trimballer avec une personne cette sculpture. C'était mon cauchemar. Disons que c'était la plus belle, on lui donnait, c'était la plus grande, c'était la plus emblématique. C'est vrai. Et puis, il y avait le nom de Harpe qui, déjà, était pas n'importe qui, c'était un monsieur.
Donc
ça commençait en 1914, son aventure.
Mmh, mmh, mmh.
La destruction qu'on a préparée, que moi j'ai trouvé toute crue de l'académie et du naturalisme, c'était ces gens-là qui l'avaient faite.
Donc, terminons. Vous avez installé, pour le groupe Espace, à Rouen, une sculpture d'harpe.
Oui, pas une fois.
Pas une fois, plusieurs fois, qui vous a laissé quelques souvenirs physiques, c'est ça? Vous avez eu mal au dos? Non?
Ben oui. Les gardiens voulaient pas, ils pouvaient pas. Ils étaient tous malades. Ils avaient tous des hernies. On me disait, vous travaillez avec les gardiens. On s'en débrouillait, je faisais venir des copains deux, trois jours. On faisait ça vraiment sans argent, hein. C'était des expositions que je pourrais dire du type familial. Mais c'était ça qui était beau. Même les artistes, quand ils venaient, ils aidaient à mettre en place deux jours avant, trois jours avant. Je téléphonais à Bloch, je peux pas terminer. Il y avait deux, trois artistes qui venaient, des jeunes comme Pilet ou comme Dewan, qui venaient et puis qui faisaient le coup de main et le truc. D'ailleurs, d'une manière générale, les galeristes ont pris ça de façon plus sérieuse. Maintenant, c'est très important. Mais il existe encore des moyens de faire des positions comme ça.
Donc, c'est un appel aux jeunes à continuer sur cette voie. Ouais. Bon, vous venez d'évoquer Harpe en le présentant comme une personnalité très influente au sein du groupe Espace. Est-ce que c'était le seul? Est-ce que vous pensez qu'il a joué un rôle particulier dans le groupe Espace ou
Je
pas?
Crois qu'il a joué deux rôles particuliers. Je ne sais pas, je l'ai fréquenté, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, mais j'avais pas l'impression que ce soit un orateur vraiment à faire des cris, et à pousser des cris. Et je crois que c'était un homme qui avait une allure assez réfléchie, assez intérieure, et puis même le couple était un peu comme ça. Et ce qui comptait, c'était son actualité, qui était renouvelée en permanence, son passé, qui était une base héroïque pour nous, donc une base de vérité, on pouvait se poser là-dessus. On avait un autre comme ça, qui était pourtant pas du tout abstrait, c'était Fernand Léger. Mais Fernand Léger, il faisait partie, avec Sonia Delaunay, de cette ancienne garde, si on peut dire, bien qu'il soit encore très actif, qui avait connu, Léger me disait, moi j'ai connu Le Corbusier, je travaillais sur l'art mural. Donc ce qui était intéressant avec Harpe, ou avec Léger, ou avec la femme de Robert Delaunay quand même, qui lui doit beaucoup au mari quand même, même si c'était une forte personnalité, Robert Delaunay a été un homme très important, c'était les premiers combats gagnés, les premières situations de crise de l'art, et par amour de la modernité, de changer tout. De changer le langage, de changer la forme, de changer tout ce qu'on pouvait changer. Alors, ce qui est intéressant avec Harpe, c'est que si vous regardez comme on vient de le faire dans la maison elle-même...
Là, nous sommes à la Fondation.
La Fondation a su tout regrouper et mettre ça en valeur un peu par famille. Parce que il y a eu des familles de recherche de forme, des recherches de sens. On voit les titres, par exemple, c'est très intéressant de voir les titres de Harpe. C'est des titres poétiques. Ce sont des titres qui expliquent que c'est un monde déjà qui est dans un côté volontairement très irréel par rapport aux autres productions, par exemple par rapport aux productions des néoplasticistes, qui, eux, sont restés dans une géométrie, etc., etc. Donc, c'était ce foisonnement du groupe Espace, tant qu'il a fonctionné, et tant qu'il a eu les revues pour le soutenir, qu'il a monté petit à petit. Il arrivait à faire des expositions à l'étranger, à Caracas, à des trucs comme ça.
Donc, et vous pensez que l'héritage de ces artistes, de Jean Harpe, du néoplasticisme, a nourri le groupe Espace?
Ah oui.
D'abord parce qu'il y avait la rencontre,
mon architecture elle-même, si vous demandez à Miguerou qui a écrit un livre qui pèse une tonne sur mon travail, il y a la première partie, il y a 20 pages sur l'attachement au néoplasticisme. C'était instinctif. On avait enfin nos modèles ou nos ancêtres vivants qui étaient encore actifs, qui eux-mêmes nous montraient qu'ils pouvaient évoluer, qui n'étaient pas figés sur leur formalisme, qu'ils évoluaient. Ça, la visite que vous m'avez fait faire de la Fondation, tout à l'heure. La présidente de la Fondation en parlera mieux que moi. C'est extraordinaire parce que j'ai vécu 52, 53, 54, jusqu'à 66, 67, etc. J'ai vécu toutes mes émotions artistiques et toute cette émotion qui pouvait rejaillir sur mon architecture. Et c'est sans orgueil que je dis que j'ai pris 20 ans d'avance sur mes confrères architectes.
De ce contact.
C'est eux qui me l'ont donné, de ce contact. Moi, j'ai hérité et j'en ai fait ce que j'ai voulu. Ils m'ont pas dit, ah ben non, mon petit, tu fais comme ça. Cet arc-là, il est comme ça, il sera pas autrement. Ils m'ont laissé libre.
Vous étiez plusieurs architectes à faire cette démarche? Vous étiez...
Ah oui. Dans le groupe Espace proprement dit, il y avait des gens comme Istrati, par exemple, des gens comme ça, qui étaient jeunes. Je vous ai nommé tout à l'heure Pilet et compagnie. Mmh. Et il y avait donc quelques personnes d'âge plutôt âgées. Puis il y avait la branche des 35-45 ans. Voilà. Et puis, il y avait les tout jeunes comme nous, qui étions réunis dans le groupe Espace, qui étaient beaucoup plus petits, pas beaucoup plus petits, le groupe était. Pourquoi? Parce que on savait que c'était un combat difficile, et que vous étiez combattant là, le monde de l'architecture traditionnelle allait se refermer contre vous. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas osé franchir le pas de l'école des Beaux-Arts. Nous, on l'a pas franchi avec Schein. On l'a fracassé la porte. On est parti en cassant la porte et en disant qu'on mettrait plus les pieds dans cette histoire et qu'on serait pas diplômé. Et ne pas être diplômé, c'était une
tare. C'était impensable, bien sûr.
Hein? Alors, donc, c'était beaucoup plus restreint. Il y avait Herzl qui a construit sa maison. On lui a construit une petite maison à Meudon, à côté, là. Herzl était un mosaïste qui faisait des mosaïques pour les grands peintres, et puis qui avait son œuvre personnelle, il y avait des gens comme ça, et d'autres jeunes architectes.
Revenons à Arp, comment vous le voyez à l'époque, à ce moment-là? Quel lien vous aviez avec lui?
Moi, j'ai plusieurs souvenirs. J'ai un souvenir des découpes. Toutes les découpes, que je pourrais appeler graphiques, ça veut rien dire, mais toutes les découpes, depuis celles qu'il découpait dans du bois et qu'il appliquait sur une plaque, ou bien les découpes à qui il donnait de la mobilité. J'ai vu dans l'atelier tout à l'heure le fameux machin noir avec un carré découpé dedans. Hein, un simple carré dans une forme un peu obtuse, comme ça. J'ai pris un coup encore. J'ai encore pris un coup parce que quand je fais des croquis, je tourne encore autour de ce motif. Qu'est-ce qu'on peut pour que le carré se rénove? Qu'est-ce qu'on peut que le cube qui est complètement avachi maintenant reprenne de la valeur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je trouve dans les découpes. Ces découpes de Harpe, il y avait une galeriste qui en avait à vendre à je ne sais quel fiac de Bâle, là, il y a une grosse fiac à Bâle, qui s'appelle Serroussi, qui habite la maison à Meudon, la maison d'André Bloch.
Ah bon?
Voilà. Et qui en fait une petite fondation pour les jeunes. Et elle en avait beaucoup. Et elle m'en parlait, et je les revoyais, et j'en ai revu ici beaucoup, sur les murs, et un peu partout. Alors ça, c'était très important pour moi. Après, il y avait la chose de la masse. Bon, la masse travaillée par des espèces de fausses sphères, de sphères déformées. Toujours par moments, la figure géométrique leur servait à être détruite et reconduite d'une autre manière, plus aléatoire, comme celle qu'on a sous les yeux, là, ce tripode-là.
Concrétion.
Moi, je fais des titres de dessins qui ne sont jamais anodins. Là, tous les titres, je les ai regardés tout à l'heure en détail. Certains, ils expriment l'essai et en même temps, ils font entrer dans la poésie. Ça, c'est incroyable. On pourrait faire un recueil des titres, c'est incroyable. Alors, ça nous servait de nous libérer de l'angle droit, quand même. Et moi, à titre personnel, j'y trouvais quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui est sous-jacent chez A, pour moi, c'est un peu un relent surréaliste, quand même. dans la façon de traiter les courbes, j'ai lu quelque part là dans mon livre que vous m'avez donné, dans ce livre catalogue, j'ai lu à un moment qu'il prenait la nature. Et de cette nature, il faisait une nature artificielle, il inventait quelque chose qui n'était plus la nature, mais qui devait encore au modèle d'origine. Ça, ça m'a beaucoup plu parce que c'est au début, hein. Ça, je ne le savais pas bien comme ça. Et c'est une piste très intéressante que d'autres sculpteurs ont prise après. Mais ce relent surréaliste, là, parce que quand on a été Dada, ça, il l'a pas caché. Il appartenait au groupe Dada. C'est même ses origines, presque.
Mmh, voilà. Bien sûr.
Il y a déjà un combat autour de la forme, pour pas qu'elle soit forme en soi, mais pour qu'elle soit une transformation de quelque chose qu'on a dans... J'ai lu dans un autre article, parce que je connais très bien, malheureusement, celui qui vient de mourir, le critique, Pierre Descartes. Il est dans les premières pages, là. Et c'était un ami, un grand ami. Donc, il y a cette explication de Descartes sur ce besoin que la forme ou la pensée se métamorphose. Il y a la notion de métamorphose. Et cette notion de métamorphose, elle se passe quelquefois de la forme, ou elle saute d'une forme sur une autre. C'est pour ça qu'on peut très assembler, comme ici, on peut les trier. C'est très intéressant. C'est une œuvre, je crois qu'il a gardé une grande valeur aux yeux de l'histoire de l'art, hein. On lui a pas enlevé sa part. Mais c'est drôle de voir aussi dans ce catalogue que il y a les choses qu'il faisait ensemble avec sa femme et puis les choses qui petit à petit, bien qu'ils travaillent ensemble, puisque j'ai appris qu'ils avaient leurs ateliers ouverts l'un au-dessus de l'autre dans cette maison, qui est la maison de la Fondation, bien que ça, quand même, chacun pouvait prendre son bagage personnel.
Son envol. On va marquer une courte pause et reprendre l'entretien dans quelques instants. Reprenons l'entretien avec Claude Veil-Séjot, qui est présidente de la Fondation ARP, qui nous accueille aujourd'hui à la Fondation. Et Claude Parent évoquait précédemment ce livre, L'invention de la forme, Jean ARP. Et juste au moment où on vient de s'interrompre, il évoquait sa femme, son épouse, architecte, Sophie Taber. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce couple d'artistes?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que Taber a joué un rôle extrêmement important dans la vie de ARP. Ils ont effectivement mené leur travail artistique séparément, mais il y a énormément de moments où ils ont soit travaillé ensemble, se sont influencés réciproquement, et il arrive même des moments où on ne sait pas toujours ce qui est de ARP et ce qui est de Taber. C'est ce qui rend les choses particulièrement fascinantes. On va publier très prochainement un livre qui s'appelle « L'atelier de Jean ARP et de Sophie Taber », dans lequel nous évoquons ce problème. Ce sera un livre assez conséquent qui normalement devrait sortir en octobre. Et nous avons essayé de comprendre, d'expliquer et de suivre le cheminement de ce travail pendant toute la période où ils ont vécu ensemble. Mais vous savez que Sophie Tauber est morte prématurément en 1943 d'un accident et Harpe a donc survécu jusqu'en 1966. Et ce livre, je pense qu'il va être vraiment très intéressant parce que c'est la première fois que nous arriverons à montrer tous ces aspects de leur travail et je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans les vies de couples d'artistes.
Le rapport entre la sculpture et l'architecture, là on est dans leur maison, vous êtes architecte, votre parent, quel œil vous avez jeté sur cette construction, sur la construction de Sophie Tauber?
Elle porte, je parle que de la maison là dans laquelle on est, là, c'est celle-là qui a été faite. Elle porte les marques très franches de ce qu'à cette époque-là, c'est-à-dire 20-30, l'architecture dite moderne souhaitait. Bon, cubique, pas de frivolité en façade, une toiture qui se voyait à peine, juste on voit juste la rectitude du sommet, et les formes les plus simples, et puis un refus de faire avec les fenêtres, enfin les percées, de faire une organisation régulière. Vous n'avez qu'à voir la façade principale, elles sont toutes décalées les unes par rapport aux autres. Rien que ce décalage, c'est une marque de modernité. C'est pas une marque de ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, c'est une fenêtre ou deux. Mais ça marque déjà un refus de l'ordonnancement néoclassique. Fallait peu, quand vous allez voir la maison de Loos, l'immeuble de Loos en Autriche, vous dites, c'est ça Loos? C'est ça l'immeuble de Loos? Vous voyez rien? Vous voyez un mur et des trous. Bon, c'est tout. Il avait enlevé toutes les corniches, il avait enlevé tous les encadrements de fenêtres que les néoclassiques faisaient, inventaient, réinventaient. Bon, c'est ça. Mais il y avait beaucoup plus à prendre chez eux deux, là, puisque vous parlez du couple. Il faut pas que j'oublie, moi, mon chapitre personnel, qui est l'admiration incroyable. Comme disent maintenant les gens qui parlent du monde moderne, ils aiment bien la jubilation. Ça prouve qu'ils sont joyeux, alors qu'ils sont dans un monde d'une tristesse épouvantable. Eh bien, moi, quand j'ai vu les photos de Laubette, je les ai gardées dans ma tête des années, car j'ai cru qu'elle avait été détruite complètement. Je sais qu'on l'a restaurée depuis, mais on ne l'a jamais entièrement détruite.
On va juste préciser que Laubette, c'est quand même une grande brasserie à Strasbourg, place Kléber, qui a été, dans les années 20, confiée à trois personnes. Vous alliez prononcer, dire leur nom.
Hein,
Sophie Tauber, Théo van Doorsburg, et puis Jean Harpe et sa femme, voilà. La Sophie, pour justement restaurer, recréer une brasserie tout à fait moderne à Strasbourg. Alors, allez-y. Ça a été un véritable succès.
Là, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ça sera toujours un chef-d'œuvre à travers tous les temps.
Pourquoi, et monsieur Parent?
Parce que ils ont fait une fusion de ces trois êtres où ils ont mis le maximum d'eux-mêmes dans un truc qui était destiné à être vu non pas par des gens particulièrement cultivés et élégants. C'était à la fois une brasserie.
Un dancing, un cinéma, un salon, des balles, tout ça.
Moi, quand j'en ai vu les photographies, j'ai été ébloui. À tel point ébloui que quand j'ai fait le café du rond-point des Champs-Élysées à Paris, moi, mon idée fixe, c'était Laubette. Et malheureusement, il est détruit, bien sûr, parce que le propriétaire a épousé une cantatrice qui ne pouvait pas supporter une architecture aussi violente, parce que c'est d'une violence extraordinaire. C'est la violence à l'état pur et l'harmonie de confrontation de formes comme j'ai jamais vu oser le faire dans une maison, dans un bâtiment, parce qu'un bâtiment, c'est plus rétif. Il y a des règles, il y a des difficultés. Là, j'ai jamais vu ça. Et j'ai jamais vu ça dans aucune des écoles modernes qui se sont succédées. Jamais ils n'ont fait un chef-d'œuvre comme ça.
Qu'est-ce que
ça, c'est à mettre au patrimoine de l'humanité. Et moi, je m'en suis servi d'une autre manière, avec mes petits pinceaux, mes petites couleurs, mais quand même, ça ne trompe personne. Migueru, qui est un homme important de la culture, peut-être un des hommes les plus cultivés sur l'architecture qui existe en France et international, Migueru, il a publié dans mon gros album de mon exposition, L'Aubette et le Café du Rond-Point. C'était pas tout à fait les mêmes formes, parce que Bloch avait rajouté certains éléments à lui qui étaient un peu plus caldériens. Mais c'était ça, c'était la géométrie pure et agitée, très confrontée au service d'une population à réveiller. Et c'était le passeport, ce truc-là, c'est le premier passeport pour que la population aille à l'art moderne. Malheureusement, la population, elle a encore des œillères. Et ça va pas lui suffire. Et il serait temps qu'on se remette de façon acharnée au problème. Moi, je l'ai fait avec la fonction oblique, parce que ça les martyrise. On voit bien qu'on les fouille. Mais là, c'était ça. Alors, quand j'ai su qu'on l'avait restauré, j'étais content. Et moi qui ne voyage plus jamais, qui ne veux plus sortir de ma maison, vous voyez, je viens juste chez vous, dans votre fondation. Et encore, j'en ai fait des manières. Et j'irai à Strasbourg voir ce truc-là.
Parce que c'est quand même extraordinaire de voir sur les murs de la grande salle, justement, cette dynamique spatiale. Vous parliez des murs tout à l'heure, à propos du groupe Espace avec Léger.
Non, moi j'aime le mur. Je trouve que le mur, c'est une grande importance. Je suis prêt à le trouer, à le passer, à le casser, tout ce que vous voulez. Mais le mur, c'est une importance extraordinaire. Alors, en fait, on casse le mur, là.
Mais là, c'est l'espace...
On casse le mur. D'ailleurs, dans la maison d'André Bloch...
Celle de Meudon. À
deux pas d'ici. Il y avait deux, si vous l'avez vu un jour, il y avait au rez-de-chaussée et au-dessus, se superposant, deux magnifiques fresques qui venaient un peu dans l'esprit de Meudon, avec des carrés basculés, des carrés qui trouvaient le mur avec la clarté du blanc. Et elle n'existe plus maintenant.
Et ça, c'est l'œuvre de Sophie Tauber, Claude Weissejo.
Alors là, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Hein.
Il y a une partie qui est l'œuvre de Théo Van Hesburg. Il y a une partie de Harp qui est la salle de bal. Elle est un duo, mais un duo conflictuel. Parce que, bon, apparemment, Van Hesburg n'a pas laissé Tauber faire exactement ce qu'elle voulait. Il y avait un conflit entre les deux.
Il l'a un peu placée en second rôle.
En second rôle, à son rôle de femme, puisqu'à l'époque, on n'était pas très ouvert sur les artistes féminins. Et alors, le travail de Harp, c'est le sous-sol. D'abord, on a des photos partielles. Moi, je ne l'ai pas vue, évidemment, et ça n'existe plus.
Là, on évoque donc le sous-sol, l'Aubette.
Oui, le sous-sol qui était la salle
qui n'existe plus.
Oui, qui n'existe plus, oui. Une grande fresque très longue, de couleurs très vives, très gaie, à l'antithèse de ce que faisait Van Hesburg.
D'accord. Une cohabitation quand même opposée.
Un peu difficile et douloureuse par moments. Mais c'est le propre du travail des artistes,
n'est-ce
pas ?
Quand on voit les premiers dessins qu'ils ont fait ensemble sur votre fameux catalogue, quand on voit ça et qu'on voit leur travail en commun, on voit déjà que, à mon avis, chez Sophie Tauber, il y avait plus de rigidité, plus de géométrie à un moment, plus de quadrillage, que, au même moment, faisait Harp. Hein. Elle était plus raide volontairement. On dirait qu'il y a une énergie. Moi, je l'ai vu dans les dessins du début, là. On dirait qu'il y a une énergie, vraiment, puisque il parlait de tissage, même. Le tissage, c'est quelque chose qui est régulier, qui est raide. On fait pas des fantaisies avec le tissage. Et on voyait bien que si elle lui a inculqué l'amour pour le tissage, etc., et des trucs comme ça, on voyait bien qu'il y avait une discipline chez cette femme-là extraordinaire. De la sensibilité en pagaille, mais avec une discipline. Et là, on est en 15-16, on est au début de leur recherche commune, et c'est très intéressant.
Claude Weissejo, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais dire qu'il y avait une très grande rigueur chez Tauber, mais il y avait en même temps une très grande liberté. Et elle jouait des deux côtés. Moi, ça me frappe dans l'architecture. Elle est certes très influencée par le Bauhaus, par tout ce travail du début du XXe, mais il y a plein de moments, et on le retrouve dans sa correspondance, où elle s'affranchit des règles. Exemple, les toits plats. Elle explique dans une lettre, les toits plats, je n'y crois pas, ça fuit toujours.
Monsieur Parent, permettez-moi, c'est vraiment fait pour vous, ça. Vous qui n'avez fait que des toits en pente, l'architecte de l'oblique, la fonction oblique, vous êtes là comblé. Hein.
Mais ma première maison avait un toit plat et je jure qu'elle a pris l'eau.
Donc, quand nous nous sommes retrouvés avec quelques petits problèmes de rénovation dans cette maison, nous nous sommes longuement interrogés sur ce toit. Et il était déjà un peu pentu. Et alors, certains disaient, il faut le remettre à plat. Et on est tombé. Heureusement sur cette lettre dans laquelle elle explique. Alors là, j'ai plus eu aucune hésitation. Je dis, on le laisse comme il est, il reste oblique. Légèrement.
Sur l'œuvre architecturale de Sophie Tauber et sur leur fusion à tous les deux, qu'est-ce que vous voyez l'un et l'autre dans la fondation, là? Imaginons qu'on veuille donner envie au public de venir. Qu'est-ce qu'on voit sur les murs, dans les œuvres exposées, dans le jardin, dans le parcours qu'on peut avoir, dans cette déambulation, dans cet espace fait par une architecte, une femme des années 20 quand même, c'était pas rien je trouve, et qui a rencontré un grand sculpteur. Il y a une fusion des deux. Est-ce que vous vous sentez, vous percevez, monsieur Claude Parent, ou vous, madame Claude Veil-Séjot, cette harmonie des deux, cette fusion, ce mélange? Comment ça s'est traduit? Parce que là, il y a probablement des échanges qu'on voit pas bien, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner envie de venir voir ces œuvres. L'un et l'autre. Claude Parent, votre œil a vu quoi?
On va se lancer, là. Attention. Attention à ce qu'on dit, là. Allez-y.
Moi, je pense déjà qu'il y a une opposition très marquée, donc par exemple la structure de cet escalier et en même temps des formes très rondes, beaucoup plus douces. Et déjà ça, je trouve que ça a un intérêt parce qu'elles se mettent en valeur l'une l'autre, me semble-t-il. Bon, le problème qu'on a quand même ici, c'est qu'on a un nombre limité d'œuvres de Tauber, à part la maison bien sûr, qui quand même est très significative, puisque malheureusement ce lieu a été vidé à certains moments de son œuvre. Nous avons pu en acheter quelques-unes, mais bon, elles sont là-haut. Nous les montrons assez largement.
Donc, des œuvres de Tauber, qu'est-ce qu'on a?
On a des meubles qu'elle avait conçus pour leur rangement. C'était des meubles extrêmement simples, des étagères, des tiroirs à dessin. Il y a également un bureau qu'elle avait fait pour la galerie Goémon qui a fermé en très peu de temps après son ouverture et que nous avons récupéré. Et nous avons essayé chaque fois de jouer dans l'accrochage entre le côté assez rigoureux de ces meubles et les œuvres, soit des œuvres du haut, soit des œuvres de harpe. Bon, c'est assez frappant quand on se promène, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots, mais c'est assez frappant quand on se promène dans les trois niveaux de la maison.
Donc des œuvres de harpe sont posées, sans socle, comme il le souhaitait, hein, sur les meubles de Sophie, de sa femme. Claude Parent, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous?
Moi, je m'avance dans les hypothèses.
Allons-y.
J'aime bien ça parce qu'on peut avoir tout faux. On est en risque. J'ai toujours pensé, et la visite de ce soir que j'ai faite avec vous me confirme que il y en avait une qui n'était pas pour la distraction. Il y en avait une qui était dure. Elle était dure. Elle était dure dans ses convictions, dure dans son intérêt, dure dans son action, et elle voulait pas aller vers d'autres univers, je crois pas. Je crois pas. Elle pouvait travailler en collaboration avec Harpe, de très près, etc. Ça donne certaines œuvres qui sont doubles, qui sont intéressantes. Mais je crois que lui, il avait quand même une attirance pour les formes rondes. Énorme! Énorme! Donc là, moi, j'aurais appelé ça, j'aurais été sa femme, j'aurais appelé ça de la distraction, de l'échapper. J'aurais dit, mais... Tu échappes à la règle. J'échappe. Et ça m'a toujours intrigué. Ça m'a intrigué quand j'ai vu, par exemple, des formes en bas, qui sont des formes très ovoïdes, et puis tout d'un coup, les deux grandes coupures, on a regardé ce qu'il y avait, etc. Ça, c'est quand même très fort.
Donc là, vous évoquez la sculpture de Harpe intitulée « Jeune continent » et qui date de 1965. Oui, vous évoquez des formes complémentaires.
Je crois qu'elles se recoupent.
Claude Veil-Séjot.
Je ressens plus les choses que je suis capable de les dire. Mais quand je suis arrivée pour la première fois dans ce lieu, j'étais fascinée. J'étais fascinée par justement cette liberté de travail, cette façon de passer d'une forme à une autre. s'était ressenti depuis longtemps par tous les artistes qui s'intéressaient à cette fondation et qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont conseillés sur des tas de choses et qui nous ont immédiatement rejoints quand on a dit bon bah il faut qu'on sauve ce lieu, et ça s'est passé sans aucun problème, tout ça parce qu'il y a une espèce de magie, il y a un esprit. Il y a un esprit du lieu, difficile à décrire, alors bon, on peut essayer de l'analyser, je pense que les seuls qui sont capables de l'analyser sont les poètes, me semble-t-il, parce qu'ils ont une sorte de perception particulière, disons.
Et on n'a pas évoqué tout à l'heure toute la poésie de Jurarp.
Absolument. Alors, ce que l'on dit toujours aux visiteurs qui viennent ici, moi ce que je leur dis toujours, Jurarp est un très grand sculpteur, mais n'oubliez jamais que c'est d'abord un poète.
Et Claude Parent, tout à l'heure, parlait des titres.
Voilà. Il y a une correspondance fabuleuse entre les formes, les titres.
Juste peut-être rappeler que lui-même se définissait comme poète avant tout, et dans les arts qu'on a évoqués tout à l'heure, ben justement, on l'a un peu oublié, la poésie. Y avait-il des poètes au groupe Espace, Claude Parent ?
Non.
Non ?
Je ne crois pas. Non.
C'est peut-être ce qui fait peut-être la dimension de Jurarp, justement, quand même. C'est cette. Ouais. Moi, ça m'a frappé de voir ces textes.
C'était quelques sculpteurs qui tenaient la poésie en main.
Et la langue, il était.
Par exemple, lui.
L'allemand.
Jurarp, c'était celui qui avait le plus ce langage comme ça, qui sortait poétiquement, c'était Jurarp. Ah ouais, on voit bien par rapport aux autres abstraits. Moi, je les connaissais tous, même Brancusi, même son élève, là, Giglioli. Mais il a une dimension, mais la poésie est tellement réfrénée dans la forme que c'est autre chose. Tandis que Jurarp, c'est quand même une exubérance. Ça sort comme ça. Ce qui m'a frappé, c'est que dans les premières pages, ils ont fait un cadavre exquis à la surréaliste. Ben, ils l'ont fait, hein. Ils ont fait une œuvre à 5 ou 6, pendant que, vous savez, le type ne voit pas celui que l'autre a fait avant. Non. Ben, quand on voit le jaillissement de ce truc-là, on est prêt à toutes les aventures poétiques, toutes les aventures possibles. Et je crois quand même que si on cherche le mystère du couple, c'est que l'échappée poétique des sculptures sont du côté d'Jurarp, et que c'est comme ça qu'il a pu être compagnon de lutte, travailler ensemble, parce que il avait quand même cet échappé qu'il avait dans les doigts et dans la tête, où on ne cherche même plus la forme. On regarde et on a une sensation poétique pure quand on regarde. Ça, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Il faut un sens de plus au sculpteur. Il faut qu'il ait un engagement de plus vers la poésie. Il y a de très grands sculpteurs que je connais, dont je commence à admirer plus le travail, alors qu'ils sont déjà très grands sculpteurs, quand je regarde leurs dessins. Les dessins des sculpteurs sont des chefs-d'œuvre. On n'y attache pas assez d'importance. Ils sont meilleurs que les dessins des peintres, qui me le pardonnent. Ce sont des chefs-d'œuvre parce que là, ils sont quand même libérés de la matière et l'état poétique vient à l'état brut dans le dessin. Et là, c'est quand même intéressant. Ce sont des gens, on creuserait leur œuvre avec du temps, avec de la science, avec un peu de poésie au fond du bagage de celui qui ferait le livre. On aurait toujours quelque chose à dire de plus sur eux. C'est ça qui m'intéresse dans ce qu'on peut appeler les grands ancêtres. Pour le moment, les artistes modernes qui sont dans le courant de l'époque les plus connus, les plus intéressants, les plus intuitifs, qui ont toutes les qualités de l'artiste, on ne sait pas encore si dans 50 ans, ils auront encore quelque chose à nous dire. On ne sait pas. On le saura. Fatalement, on le saura. Et là, Jurarp, il a toujours quelque chose à nous dire.
Ce que nous avons cherché à faire aussi, c'est tout de même de garder les œuvres dans le lieu où elles sont nées. Parce qu'elles sont dans une lumière qui n'est pas la lumière d'un musée, qui n'est pas la lumière d'une salle d'exposition dans un centre d'art, etc. Et à partir de là, je pense que chacun y trouve sa voix, sa vérité, ce qu'il recherche. Et on a essayé de garder l'esprit de liberté qui a toujours animé ces deux artistes en nous disant il faut que le spectateur, le regardeur, comme on dit parfois, et la même possibilité. Et je crois que c'est probablement ce que les gens apprécient ici. Les gens qui font visiter la fondation, parce que nous sommes quand même obligés d'accompagner un peu le visiteur compte tenu de l'exiguïté des lieux, ont des consignes très strictes. N'imposez jamais un discours à un visiteur, c'est à lui de trouver les clés. Si vous sentez qu'il ne les trouve pas absolument, vous pouvez le mettre sur une piste, s'il en a envie, s'il n'en a pas envie, c'est pas la peine. Mais gardez l'esprit de liberté absolument dans un lieu comme ça pour le visiteur. Alors je sais que c'est pas le discours habituel, mais bon, nous avons choisi les chemins de traverse à la Fondation et nous sommes bien décidés à les garder.
Vous avez raison. Bien.
On reste sur cette note optimiste et de liberté, et sur une note poétique peut-être. Il s'agit d'un poème de Harpe de 1933 qui s'intitule « L'air est une racine ». Les pierres sont remplies d'entrailles. Bravo, bravo. Les pierres sont remplies d'air. Les pierres sont des branches d'eau. Sur la pierre qui prend la place de la bouche, pousse une feuille arête. Bravo. Une feuille de pierre est tête à tête et pied à pied avec un regard de pierre. Les pierres sont tourmentées comme la chair. Les pierres sont des nuages, car leur deuxième nature, leur danse sur leur troisième nez. Bravo, bravo. Quand les pierres se grattent des ongles, poussent aux racines. Bravo, bravo. Les pierres ont des oreilles pour manger l'heure exacte. Alors, voilà, ça c'est peut-être une allusion effectivement à la maison, au soleil tout autour, sur toutes les façades de la maison. Laissons les derniers mots à l'artiste auquel on est venu rendre un petit hommage à la Fondation Harpe.
J'ai lu une phrase qui m'a étonné, mais il se méfie, ou elle se méfie, ou tous les deux se méfient de la main qui dessine, de l'indépendance de la main, de la trop grande indépendance que le fait de faire comme ça, et il s'efforce à géométriser davantage pour que il y a un texte là-dedans, parce que vous savez, le croquis de la main, c'est la tête. Bon, à entendre dire que il faut pas que la main ait son autonomie, c'est très important quand même. Parce que quand on voit des dessins comme le bleu, gris-bleu et blanc, quand on voit ce dessin...
Cueillette, donc, qui s'appelle.
Ou l'autre, le découpage, on voit bien que c'est quand même la main qui, dans sa souplesse, l'articulation du poignet, etc., le mouvement du bras, accompagne un truc qui est pas hésitant, au contraire, très sûr, et qui va dans quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure que le trait se fait. Et sans méfier, j'ai lu quelque part qu'il y avait une méfiance sur ce truc-là pour que la tête reprenne le dessus. C'est quand il travaille sur les trames, quand il travaille sur les trames du tissu, quand il réapprend la dentelle, elle lui réapprend la dentelle. C'est quand même curieux d'entendre une femme et un homme. Et elle, elle a fait de la dentelle parce qu'elle est de je sais pas quel pays. Sa mère lui a imposé, hein, la Suisse, lui a imposé la dentelle. La dentelle, non pas comme une fantaisie, comme on croirait nous, mais comme une chose qui est si précise qu'elle devient extrêmement austère, la dent. Le contraire, c'est-à-dire que la dentelière a un métier d'austérité pour faire des choses jolies et comme ça. Et je crois que c'est par là, à un moment, il dit on va reprendre les trames, on va reprendre les carrés, on va reprendre ce dessin des trames pour ne pas nous laisser entraîner par la main. Voilà, c'est nous laisser entraîner par la main. Je crois bien avoir lu ça. Autrement dit, j'avais cru comprendre en lisant ça, si mon souvenir est exact, que dans leur rapport de travail, il y en avait toujours un ou l'autre pour, alors que c'est une fantaisie déchaînée. Si on le regarde comme ça, superficiellement, je dis, quelle fantaisie, regardez ça, regardez ça. Eh bien, il y avait une grosse discipline. Il y avait un rappel à la discipline permanent. Ça m'a quand même étonné.
Merci à tous les deux pour cet échange à la Fondation Harpe. Claude Parent, merci d'être venu jusqu'ici. C'est très gentil d'être venu jusque-là et de nous avoir accordé de votre temps. Et puis, merci aussi Claude Saint-Jean.
C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous parce que c'est un très grand encouragement pour tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent. J'espère que cette visite vous a convaincu.
J'espère surtout qu'elle convaincra les visiteurs de venir. parce que c'est eux qui feront aussi le succès de ce lieu, qui le feront vivre et qui permettront aussi d'être entendus ailleurs pour abriter et continuera à soutenir la fondation ARP. Monsieur Parent, merci, au revoir.
Avec plaisir.